L'ENA a souvent été critiquée, voire menacée de fermeture. Cette fois, ça sent vraiment le roussi pour cette école qui forme les hauts fonctionnaires français depuis plus de 70 ans. Emmanuel Macron envisage de la supprimer, lui qui en a été pourtant l'un des élèves. Il avait prévu d'annoncer cette mesure lundi soir dans son discours de réponse à la crise des Gilets jaunes. Bonjour Daniel Keller.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'association des anciens élèves de l'ENA. D'abord, tout simplement, comment réagissez-vous à cette possible disparition de l'École nationale d'administration ?
Bon, il faut d'abord, bien entendu, s'assurer que l'intention du président est conforme à ce que vous annoncez. Pour le reste, je pense que l'ENA ne doit pas être le bouc émissaire de la crise sociale et politique que connaît la France actuellement.
Mais vous comprenez quand même qu'elle suscite des critiques. Elle est critiquable.
Elle est critiquable. L'ENA a toujours été critiquée. Je crois que ça fait partie de son histoire. Mais si on regarde un peu au-delà de nos frontières, l'ENA est une école aussi qui fait envie dans beaucoup de pays. Et c'est un modèle que beaucoup de pays étrangers avec lesquels la France coopère, que nombreux pays cherchent précisément à copier.
On reproche à cette école d'être élitiste, de reproduire les inégalités sociales, vrai ou faux ?
L'ENA ne peut pas porter sur ses épaules le fardeau de toutes les inégalités sociales qui se reproduisent au fil de la vie scolaire. Les inégalités sociales, elles commencent à l'école maternelle. Ensuite, l'ENA est un concours et en cela, elle est quand même un exemple de la méritocratie. Alors certes, il y a des améliorations à opérer et d'ailleurs l'école s'y attelle puisqu'il y a d'ores et déjà des classes préparatoires intégrées qui cherchent à permettre à des jeunes issus des quartiers difficiles, de ces banlieues que la République a abandonnées depuis de nombreuses décennies, qui cherchent à permettre à ces jeunes précisément de passer les concours de la fonction publique et de préparer le concours de l'ENA. Donc l'ENA s'efforce justement de lutter à la mesure de ses moyens contre ces inégalités, et on ne doit pas lui faire le reproche d'être l'incarnation de discrimination ou d'inégalités qui sont en fait le fruit du système éducatif tel qu'il est en France aujourd'hui.
Alors c'est vrai qu'elle est en bout de course, que ça touche également à plein d'autres grandes écoles. Cela dit, d'après des études que j'imagine vous avez vues, on voit quand même que justement cette reproduction des élites est de plus en plus marquée à l'ENA. Dans les années 50, il n'y avait qu'un élève sur deux qui avait un père qui exerçait une profession supérieure. Aujourd'hui, on est à 70%, la situation s'aggrave.
D'abord, la France s'est transformée par rapport à la période que vous évoquez. Heureusement que un nombre de Français toujours plus important a pu faire des études depuis les années 50 et que d'une certaine façon, il y a une forme d'embourgeoisement de la société et donc fatalement des élèves qui entrent à l'ENA. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais j'observe quand même que dans la promotion qui vient d'entrer cette année à l'école, 30% ont été, durant leur scolarité, des boursiers de la République. Donc, présenter l'école comme une école en bout de course, qui serait, encore une fois, refermée sur elle-même, c'est totalement inexact.
Le concours, on le sait, est ultra sélectif. Il y a combien de places chaque année ?
Il y a 80 places et 3 places de plus pour le nouveau concours qui vient d'être ouvert au docteur de l'université. Donc c'est un concours très sélectif. Il y a en réalité environ 800 candidats qui passent les épreuves du concours d'entrée à l'ENA.
Donc ça fait quoi, 10% seulement ?
Pour un petit 10% de réussite, c'est un concours très sélectif, mais le concours de polytechnique, le concours de normal supérieur, les concours désagrégation sont des concours sélectifs, mais ce sont ces concours qui font la réputation et la renommée des élites françaises.
Donc vous trouvez qu'en fait l'ENA prend pour tout le monde, en gros, c'est ça ?
On pourrait le dire comme ça, l'ENA prend pour tout le monde, elle en a l'habitude, mais je crois qu'il ne faut pas, encore une fois, perdre de vue que nous avons besoin d'un système de formation des élites administratives. Et qu'elle s'appelle ENA ou autrement, on ne pourra pas, en tout cas, rayer de la carte le besoin que nous avons de former au métier de la fonction publique, au métier du management public, les candidats qui se destinent à ces carrières.
Vous disiez que l'école était en train de changer. Hein. De quelle façon ? Dans le recrutement ou au contraire dans les places à la sortie ? Dans le fait de peut-être que certains devraient faire leurs preuves sur le terrain avant d'intégrer automatiquement les grands corps de l'État ? Il y a des réflexions comme ça en cours ?
Mais il y a, sous la direction de Patrick Gérard, directeur de l'école depuis maintenant un peu plus d'un an, il y a, enfin même depuis 2017 très exactement, donc ça fait presque maintenant plus de deux ans, il y a effectivement un plan de transformation de l'école qui vise à élargir les bases de recrutement. C'est vrai que c'est une question qui doit être observée, élargir les bases de recrutement pour permettre à l'ENA de mieux ressembler à la diversité française.
Et comment on fait alors? C'est quoi, par exemple, vous, votre idée, ce serait de faire quoi pour justement...
Les classes préparatoires intégrées que l'ENA a mises en place, évidemment, c'est quelque chose, à mon avis, d'essentiel dans ce travail d'ouverture, mais on peut...
C'est quoi exactement réussir. Parce qu'il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est qu'une classe préparatoire intégrée.
Une classe préparatoire intégrée, c'est le fait que l'ENA, aujourd'hui, à Paris et à Strasbourg, a deux classes préparatoires qui sont ouvertes à des jeunes issus de la diversité, des banlieues difficiles, en difficulté, des lycées de la République dont on n'entend jamais parler, et où, effectivement, eh bien, on trouve qu'il y a deux jeunes gens, deux jeunes femmes, qui ont les capacités pour préparer des concours de la fonction publique. Ça, c'est une chose. L'ENA réforme aussi sa scolarité. C'est une école des connaissances qui veut devenir une école des compétences. Donc, c'est vrai que cette réforme interne de la scolarité menée actuellement par le directeur de l'ENA fait partie de ses objectifs. Et puis, encore une fois, il faut aussi penser à la formation tout au long de la carrière. Faire l'ENA, ça n'est pas une rente de situation. Donc, il faut effectivement, au fil de sa carrière administrative, avoir des rendez-vous pour réévaluer ses aptitudes, réévaluer ses capacités à devenir le cadre dirigeant dont l'État a besoin, dont l'administration a besoin. Donc, cette transformation, l'ENA la pratique déjà. Et je crois que il faudrait que cela se sache, parce que on ne peut pas présenter l'ENA comme une école figée sur elle-même.
Une dernière question, on n'a plus beaucoup de temps, mais j'aimerais quand même savoir, Daniel Keller, comment ça fonctionnait avant la création de l'ENA, hein, cette école date de 45.
Mais avant de la création de l'ENA, cela fonctionnait par des mécanismes qu'on a appelés la cooptation. Donc une haute administration qui était certainement beaucoup plus reproductrice des inégalités que ce que Michel Debré a fait en 1945 quand il a instauré cette école nationale d'administration qui avait d'ailleurs été pensée par d'autres, notamment par Jean Zay avant la guerre, et cette école de l'État qu'il a instauré en 1945 et qui justement avait pour vocation de recruter des cadres dirigeants de l'État.
Merci beaucoup Daniel Keller, président de l'Association des anciens élèves de l'ENA et invité du 5-7 ce matin.